Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler effectivement de sciences cognitives, mais pas simplement de sciences cognitives. D'abord pour fêter un bon anniversaire à William, parce que ça, malgré tout. Et puis aussi parce qu'on va parler aussi des travaux les plus récents en anthropologie, des travaux les plus récents en histoire, des travaux les plus récents en management. Donc des choses qui apparemment pourraient sembler éloignées. Donc on va essayer de croiser tout ça. Et puis de petites choses toutes simples, c'est comment on fait de l'innovation, comment on arrive à coopérer, à faire des choses ensemble. Alors, si ça ressemble un peu à un fatras tout ça, c'est parce que j'ai essayé de mettre deux choses qui me passionnent. La première, c'est, en tant que directeur scientifique effectivement de la FIN, comme le disait Michel, eh bien, j'ai essayé de travailler pour voir un peu les pistes, le sens qu'on pouvait avoir lorsque l'on commence à parler à la fois de nano, de bio, d'informatique et de cognition, les fameux NBIC des Américains, le terme que j'aime pas beaucoup, mais malgré tout, des choses donc, où ça se croise un petit peu. Et puis, l'autre côté, mon autre dada, c'était de dire, mais comment on peut aussi faire des choses coopératives, c'est-à-dire pas simplement faire du management de projets classiques, mais aujourd'hui, pour faire de l'innovation, il faut arriver à faire des choses ensemble. Et donc, j'avais pas mal travaillé là-dessus, on avait monté un groupe même sur l'intelligence collective à la FIN, et au bout d'un moment, quand on arrive à trouver des telles choses qui permettent de mieux coopérer, on se rend compte qu'il y a aussi des choses qui font moins coopérer. Et donc, il faut se poser aussi des questions de non-coopération. Et donc, le deuxième support sur lequel je me suis appuyé aujourd'hui, c'est de se poser la question de, finalement, eh bien, comment on gère le conflit d'intérêts et pourquoi on y arrive aussi mal, par exemple. Alors pour ça, eh bien, on va essayer de voir un peu les choses, tout ça en détail, et on va se poser d'abord la question de ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Alors un conflit d'intérêts, c'est quoi? Ben, ça ressemble à un tir à la corde. Vous avez une équipe rouge qui tire sur la gauche, une équipe jaune qui tire sur la droite. Et puis, eh ben, normalement, la réponse, c'est le plus fort qui gagne. Alors ça, c'est depuis la nuit des temps, hein, ça existe toujours. Et puis, on a un peu évolué, comme nous les humains, on est très fiers, parce que c'est plus simplement le plus fort, c'est le plus malin. Et là, je vous conseille deux très bonnes lectures, Le Prince de Machiavel, ou Sun Tzu, l'art de la guerre. Mais voilà, on n'a pas été beaucoup plus loin. Donc finalement, pour fabriquer de l'intérêt général avec ça, ça ne marche pas très très bien. Alors vous allez me dire, non, on a été quand même un petit peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a créé la notion d'arbitre. Alors, on va essayer d'avoir un arbitre qui va essayer de dire, tiens, finalement, on va essayer de faire ça mieux. Alors, la question change, effectivement. La question devient maintenant, qui achète l'arbitre? Alors, vous allez me dire, l'arbitre, non, il est intègre. Oui, bon, il y a des arbitres intègres, il y en a qui ne le sont pas, bien sûr, c'est vrai. Mais même un arbitre intègre, il est intègre consciemment. Mais la conscience, ça se manipule très bien. On a aujourd'hui une science. Et à ce moment-là, je vous conseille plutôt de lire Propaganda de Édouard Bernays, pour arriver à savoir comment manipuler. Mais c'est malgré tout pas avec ça qu'on va faire de l'intérêt général, c'est pas encore terrible. Alors on pourrait effectivement avoir un arbitre qui serait complètement au-delà des intérêts. C'est ce que d'ailleurs les Chinois ont essayé de faire avec un empereur, et l'empereur, pour pas qu'il soit dans la société, pour qu'il puisse juger, ils l'ont enfermé dans la cité interdite. Et je peux vous dire, ça marche pas. Alors on va essayer de faire autre chose. On va changer les règles du jeu. Notre arbitre, puisque du coup il sert pas à grand chose, on va le mettre dans un grand sac et on va l'attacher au milieu. Chose complètement stupide, et on va voir ce qui se passe. Alors si c'est un arbitre qui, à force d'être arbitre, a bien mangé et puis a pris du poids, on va prendre ça un petit peu plus avec un éléphant, par exemple, eh bien on voit qu'à un moment donné, les gens commencent à plus tirer exactement en face. Et puis, si vous connaissez un tout petit peu depuis la troisième, la composition des forces, vous voyez qu'il y a des forces qui s'opposent, et puis il y a une petite partie convergente des forces. Et à ce moment-là, eh bien, il se passe quelque chose de nouveau, c'est qu'on est même capable de traîner un peu l'éléphant. Plus ou moins, suivant comment on converge. Alors ça, on pourrait se dire, bah, tiens, c'est super, c'est des stratégies gagnant-gagnant, tant mieux. Et puis, c'est pas comme évident, parce que on pourrait se dire, mais c'est pas tellement mis en œuvre. D'ailleurs, là, je vous montre les choses vu de l'extérieur, mais les protagonistes, ceux qui travaillent là-dedans, ceux qui participent, voilà ce qu'ils voient. C'est beaucoup moins clair quand même. Alors, en fait, on pourrait se poser la question, mais finalement, c'est pas tellement mis en œuvre tout ça. Pourquoi? Est-ce que finalement, ça serait pas une question de penser, de la façon dont on pense? Alors, on peut dire, nous sommes vachement contents, nous, par rapport aux animaux, on arrive à penser, on fait des tas de choses en plus, super, mais est-ce qu'on pourrait aussi se poser la question de ce qu'on fait mal? Et pour ça, eh bien, la question, c'est, en fait, de repartir à la base, comment pense-t-on? Alors pour ça, eh bien, je vais prendre un petit exemple. Penser, c'est avancer. C'est-à-dire, je mets une première idée, qui va en enchaîner une deuxième, qui va en enchaîner une troisième. Et c'est un petit peu comme si je me promenais, comme ça, et j'avance étape après étape. Et là, à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir avancer, donc mettre un certain nombre de pas. Donc on pourrait faire un parallèle entre se promener dans la nature, et puis de temps en temps, bah, vous voyez, tiens, on va à droite, à gauche, j'ai un point de départ, une question, et je vais faire un chemin jusqu'à un point d'arrivée. La question qu'on pourrait se poser, c'est effectivement, mais quelles sont nos limites? Est-ce qu'on a des limites? Et là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On va tester ça. Au fait, vous vous souvenez ce que j'ai dit? Parce que ça fait à peine 7 minutes que je parle. Et je suis sûr que vous vous souvenez d'un truc ou deux, mais vous avez oublié tout le reste. Alors, je vais vous rassurer, moi aussi. Mais on a quand même un petit problème, c'est qu'on a une limitation, effectivement, pour se rappeler, effectivement, tout ce qui se passe. Cette limitation, eh bien, elle existe. Et donc, on a dit, alors je vous le redis un peu, voilà, on a parlé, effectivement, du conflit d'intérêts, on a parlé de l'arbitre, on a parlé de la convergence, on s'est posé la question, mais effectivement, pourquoi ça marche pas aussi bien, puisque c'est un problème de pensée, qu'est-ce que c'est que la pensée? Vous voyez, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Là, si on oublie le titre, il y a 6 transparents, et déjà, dans les 6, eh bien, on est perdu. Et si on est perdu, c'est que, justement, nous avons une limitation parce que on est capable de travailler avec 3 choses. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. C'est que vous êtes absolument incapable physiologiquement d'enchaîner plus que 3 choses ensemble parce que votre mémoire de travail, celle qui vous permet de garder à l'esprit des choses, eh bien, est limitée à 3. Et j'ai une nouvelle encore plus mauvaise, c'est que moi aussi. Et alors évidemment, vous allez me dire, il y a quand même quelque chose parce que ça fait un petit bout de temps que je parle et puis vous-même, ça vous arrive de mettre plus de 3 idées. Donc, on a dû trouver une astuce. Essayons de comprendre quelle astuce on a essayé de trouver pour arriver à ce que nous, hommes, alors que d'une façon physiologique, notre boucle phonologique, c'est le nom de cette mémoire de travail, est limitée à même le stade que les singes ou les abeilles, eh bien, pourquoi nous arrivons à faire quelque chose de mieux? Alors, retournons au néolithique, retournons avant. Est-ce qu'on a fait des hommes avec des puces dedans pour arriver à faire les choses? Je ne crois pas trop, parce qu'à l'époque, notre savoir-faire dans les puces n'était pas très bon. Donc, quelle augmentation on a fait? Et là, ça devient intéressant, parce qu'il y a eu une augmentation, effectivement, mais cette augmentation, elle est culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus de notre mémoire de travail, nous avons une mémoire à long terme. Alors, elle est grande. Et nous y avons stocké, depuis tout petit, un vocabulaire symbolique, celui que nous a appris notre maman et notre papa. Et ce vocabulaire symbolique, eh bien, il représente l'association de mots, de sons, si je parle, ou de bouts de graphisme, si j'écris, qui vont être associés à un concept. Et avec tout ce stock de plusieurs milliers de mots, eh bien, je suis capable de réalimenter mon petit truc, là, c'est-à-dire mon petite mémoire de travail, qui est limitée, pour arriver à parler. Si bien que, bien sûr, on peut parler du langage animal, les singes parlent, les chiens parlent, les abeilles aussi, avec un langage qui est plutôt dansé que parlé, mais pourquoi pas, mais sont limitées à 3. Alors ils disent des choses, des fois, des très compliquées. Ils parlent, certains animaux parlent de mort ou de choses comme ça, mais par contre, au bout de 3, pour faire un discours, c'est pas terrible. Et nous, notre astuce, nous, humains, chic, on a un truc de bien, eh bien, c'est d'arriver à faire, à voir stocker culturellement des mots pour aller plus loin, à tel point que je vais pouvoir être capable d'aller jusqu'à parler tout le temps. Parler tout le temps. D'ailleurs, l'être humain, c'est un être qui parle, pour le meilleur et pour le pire. Il dit beaucoup de bêtises. Et puis même quand il est inconscient, il parle encore, nous dit Lacan. Alors pour vous dire, on n'arrête plus de parler et c'est un flot continu de discours, pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est les peurs de Michel et j'espère aussi les plaisirs de Michel qui aime beaucoup parler aussi. Donc tu vas pas avoir peur, j'espère, non plus de parler. Alors, donc, regardons bien ce qui se passe. Là, nous avons effectivement quelque chose d'assez intéressant, c'est que nous avons un petit système qui nous permet simplement d'aller plus loin pour pouvoir penser. Maintenant, ce qui serait intéressant pour aller un peu plus loin, c'est, d'accord, mais si ça marche aussi mal parce qu'on n'arrive pas bien à gérer le conflit d'intérêts, on voit dans notre société, c'est bien, on arrive à faire des envoyer un homme sur la Lune, on arrive même à faire des bombes atomiques, mais en plus, on arrive à se les envoyer sur la tronche. Donc, il y a quand même des petits problèmes. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien avec ce mode de pensée. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de regarder plus en détail qu'est-ce qu'on ne fait pas très très bien de cette manière-là. Quels modes de pensée sont pas très bien adaptés à ce qu'on fait de mieux et là où ça ne marche pas bien. Alors, on va essayer de regarder ça un peu plus en détail. Pour ça, je vous propose un petit jeu. Ce petit jeu, c'est ici, vous voyez une pièce, c'est pile ou face. Alors, pile, c'est simple, c'est quand il y a un chiffre. Et face, c'est quand il n'y a pas de chiffre. Alors, je vous demande ici, regardez cette pièce-là, regardez-la bien. Est-ce que cette pièce-là, elle est pile ou elle est face? Alors, qui pense qu'elle est pile? Allez, lâchez-vous. Qui pense qu'elle est face? Bon, alors, il y a une forte proportion à dire que c'est pile. D'ailleurs, et moi aussi, je suis d'accord avec vous. Donc, nous sommes d'accord, c'est bien, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à avoir pratiquement un consensus. Sauf que, pas tout à fait. Ce gars-là, il n'est pas du tout d'accord avec nous. Il est en train de dire, mais non, vous racontez n'importe quoi, la pièce, elle est face. Et en plus, si on rajoute le troisième, alors lui, il dit, mais vous racontez vraiment n'importe quoi, il n'y a qu'une tranche. En fait, qu'est-ce que l'on est en train de faire là? On est en train non plus d'avoir un point de départ et un point d'arrivée, mais plusieurs points de départ, plusieurs points de vue, le nôtre, ici, le sien, ou celui-ci, et un point d'arrivée. Essayez de faire ça avec un seul langage linéaire, on l'écrit. Alors vous pouvez les mettre les uns après les autres, mais si vous vous rappelez le début, au bout de trois, déjà, je suis perdu. Alors si on veut essayer de faire l'intelligence collective entre nous tous, on va avoir un petit problème. Donc ça veut dire, première chose qu'on ne sait pas très bien faire avec notre langage, puisque, attention, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on parle, c'est parce que l'on parle que l'on est intelligent, eh bien, avec notre langage, on n'est pas très bon pour penser ensemble. Ça commence mal. Alors pourtant, on nous dit, mais non, la communication, c'est ça qui permet aux hommes de faire des choses ensemble. D'accord, mais comment avec un discours, ce qu'on fait de mieux, eh bien, on va faire des choses ensemble, ça marche pas bien. Deuxième problème, on l'a déjà vu, le conflit d'intérêts, c'est quoi? C'est un point de départ, deux directions. Alors, à part si vous essayez de faire ça avec un discours simultanément encore, à part si vous faites des polyphonies corses, et encore pour faire du discours, c'est pas très facile, deux discours en même temps opposés, c'est pas très simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on fait un compte-rendu, et puis le gars qui fait le compte-rendu, ou le plus fort, celui qui parle plus fort, eh bien, on met son résultat, et puis on va pas mettre le résultat inverse, parce qu'il y en a un qui gagne. Et donc, on perd toute la richesse. Troisième chose qu'on fait pas bien, c'est qu'est-ce que c'est que la création? Imaginez un certain nombre d'idées potentielles au départ, je vais partir de l'une de ces idées et je vais aboutir à l'autre de ces idées. Et avec ça, eh bien, je vais essayer de créer une nouvelle idée. C'est ça en fait, créer quelque chose, et l'innovation ça va être de la création dont les gens vont pouvoir s'approprier, donc c'est encore un stade après. La seule chose c'est que là j'ai plusieurs points de départ potentiels et plusieurs points d'arrivée potentiels. Catastrophe, encore une fois, j'arrive plus du tout avec mon propre langage, mon propre discours, un point de départ, un point d'arrivée, à faire quelque chose qui marche. Donc ça veut dire quoi tout ce que je viens de dire? Ça veut dire que nous sommes très fiers, nous, humains 1, animaux 0, on est capable, nous, d'arriver à faire un discours sans s'arrêter de parler pendant très très longtemps, alors que les animaux, ils en sont qu'à 3. Mais on a juste 3 petits problèmes, on n'arrive pas à vivre ensemble, on n'arrive pas à gérer les conflits d'intérêts, et on n'arrive pas à être créatif autant qu'on devrait être. C'est pas grave, on pourrait vivre avec. Vous voyez, c'est ce qu'on fait. Mais enfin, ça serait peut-être bien qu'à un moment donné, on essaie de se poser la question, est-ce qu'on pourrait faire ça un peu autrement? Alors, donc, on retrouve donc notre petit problème. Et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je peux avoir d'autres façons de penser? Est-ce que finalement, cette façon de penser linéaire, où je prends une idée, une deuxième idée, une troisième idée, et puis j'ai un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, qui me permet ni de faire de l'intelligence collective, ni de faire du conflit d'intérêts, ni de faire de la création, eh bien, est-ce que je pourrais aussi penser autrement? Alors, là, on va faire un petit peu de science cognitive. Petit rappel sur un des modèles, le modèle SPI, par exemple, de mémoire. Vous savez maintenant, sûrement, si vous êtes étudiant en sciences cognitives, on considère qu'il y a différents types de mémoire. Il y en a plein, il n'y a pas une mémoire. Alors, vous avez plein de mémoires à long terme, mémoire perceptive, sémantique, épisodique. On s'en fiche. Vous avez aussi la mémoire procédurale, mais on s'en fiche. Celle qui va nous intéresser, c'est cette mémoire-là, la mémoire de travail. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous permet de penser. C'est celle-là qui va nous intéresser. C'est-à-dire qu'en fait, si, là, je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous faisiez dans vos dernières vacances l'été dernier? Vous allez pouvoir retrouver dans votre mémoire. Mais pendant que je parlais avant, vous pensiez à d'autres choses, peut-être complètement à autre chose, d'ailleurs pas du tout à ce que je vous raconte, mais peut-être pas à ça. Donc vous n'aviez pas ça présent à l'esprit. Comment essayer de garder à l'esprit un maximum de choses? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la découverte, c'est qu'on n'a pas une mémoire de travail, mais deux mémoires de travail. Alors on a aussi un administrateur central qui, paraît-il, n'est pas tant que ça, central, et puis des tampons, des tas de choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la boucle phonologique qui est notre petit système qui nous permet de mettre les idées les unes après les autres, eh bien, est complété par un autre système que l'on appelle le calepin visuo-spatial. Alors, ce calepin visuo-spatial, eh bien, on va se poser la question, effectivement, comment il fonctionne. Et lui, c'est intéressant parce qu'il ne fonctionne pas du tout en série, il travaille justement en parallèle, en carte, si vous voulez. Alors, on pourrait se dire, ben, super, on a résolu notre problème. Avec ça, je vais pouvoir faire la création, je vais pouvoir essayer de confronter des points de vue, je vais pouvoir faire de la gestion de conflits d'intérêts, des choses comme ça. Oui, mais rappelez-vous, notre première mémoire de travail, elle était limitée. Est-ce que notre deuxième mémoire de travail ne serait pas limitée aussi? Alors pour ça, j'aimerais appeler quand même les meilleurs spécialistes mondiaux de la limitation du calepin visio-spatial. J'ai nommé les Munduruku. Alors les Munduruku, c'est une tribu amazonienne qui compte comme ça. 1, 2, en gros 3, à peu près 4, environ 5 et plus. Alors d'abord, on a envoyé les linguistes. Et alors ils ont dit, oh, on n'en fera jamais rien, ils ne sont pas capables de calculer une TVA, comment voulez-vous les civiliser? Et puis après, il y a eu des équipes de neuro et de françaises en plus, qui a été regardé et qui a découvert des choses très intéressantes. Et ils se sont dit, mais il y a quand même un problème, c'est que, ouais, ils sont peut-être complètement sous-développés, soi-disant, dans Munduruku, mais eux, ils arrivent à vivre en groupe, et nous, on n'y arrive pas bien. Alors, peut-être qu'eux, ils ont compris un truc que nous, on n'a pas compris. Et pour ça, eh bien, regardez-les bien. Vous voyez bien ces Munduruku. Eux, ils ont quelque chose de particulier. Et pour ça, je vais vous poser une petite question. Combien y en a-t-il? Alors, à votre avis, allez, lâchez-vous. Beaucoup, oui, d'accord, ça c'est facile. Allez, dites un chiffre. Ah non, 50. 30, qui dit mieux? 5 et plus. Allez, je vous donne la solution. 23. Ah, pas mal, mais non, c'est 21. Alors, en fait, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, on n'a pas eu le temps de les compter. Sauf que, si jamais, au lieu d'en avoir 21, et en plus ils sont un peu cachés les uns les autres, il n'y en avait eu que 4 ou 5, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez été, même sans les compter avant, capable de vous rappeler l'image suffisamment dans votre petite tête pour pouvoir y mettre et les compter a posteriori. Donc nous avons la capacité, dans notre tête, à compter à peu près entre 5 et 9. Alors j'ai mis 7 plus ou moins 2 d'après un article très célèbre et très ancien maintenant, la magie du nombre 7 plus ou moins 2, mais nous avons cette limitation, cette deuxième limitation, nous sommes incapables de garder plus que entre 5 et 9. Alors ça veut dire que là déjà ce matin, vous voyez, on a déjà parlé de pas mal de choses. Hein. On s'est baladé par là, on s'est baladé par là, on s'est baladé par là. Il y en a déjà plus que 5 ou 9. Donc déjà, vous avez déjà perdu une bonne partie. Deuxièmement, si vous laissez de marier ça avec les cours que vous avez eus, avec d'autres domaines, avec des choses qui sont vos questions quotidiennes, que ça soit qu'elles soient professionnelles ou autres, ça fait pas beaucoup. Mais bon, on pourrait dire, allez, vous êtes dans la moyenne, vous en avez 5, 6, 7, allez, 7. Ah oui, mais alors le problème, c'est que j'ai quand même un problème avec la voiture là qui marche plus très bien. Alors ça m'occupe une case. Allez, hop, il ne reste plus que 6. Ah, puis il y a les enfants, là, ça pose un problème. En ce moment, ça ne va pas. Allez, hop, plus que 5 cases. Et puis, il y a d'autres problèmes. Puis, là, au travail, ça, hop, allez, plus que 4, plus que 3, plus que 2, plus que 1. Et vous allez pouvoir créer, par rapport à tout ce que vous entendez ici même ou ailleurs, eh bien, une magnifique idée à partir d'une idée mariée avec elle-même. Et ça n'est pas grand-chose. Donc finalement, non seulement on est limité, alors un peu moins, je suis d'accord, je vous l'accorde, on n'est pas limité à 3, on est limité entre 5 et 9. Mais on les occupe bien, hein, parce que plus ça va, et le 21e siècle, il fait que, on en parlait d'ailleurs en arrivant, on est quand même bien occupé dans notre tête. Donc en général déjà, mais même si j'ai vraiment la chance d'avoir à peu près 9 cases, eh bien les 9, elles sont déjà occupées, il y en a déjà une dizaine d'occupées. Donc pour avoir de la place pour le reste, c'est pas bien parti. Alors on pourrait essayer de se poser la question maintenant, comment faire? Alors regardez, on va essayer de représenter ça un peu d'une façon un peu différente. Donc ici, rappelez-vous, nous avons notre mémoire de travail limitée, mais celle-là elle est linéaire. Hein. Je mets les idées après les autres. Et puis on a trouvé une astuce fantastique, on a fait l'homme augmenté, enfin pardon, le singe augmenté, et on l'appelle homme. Sauf qu'il n'est pas augmenté par des puces, comme les transhumanistes, comme voudraient le faire le transhumanisme, mais augmenté par la culture, par l'apprentissage d'un vocabulaire symbolique. Et j'insiste sur le mot symbolique, puisque le vocabulaire ou le langage existe aussi dans le monde animal, mais le langage symbolique, eh bien, ça c'est un truc qui nous intéresse particulièrement. Et puis avec ça, eh bien, je suis capable de parler. Ici, pour éviter ces limitations que nous avons ici, eh bien, nous avons une autre mémoire de travail. Ouf, tant mieux. Comment on va faire pour arriver à aller plus loin? Parce que si on est là, on est à peu près mi-homme, mi-singe. Alors, bonne nouvelle, les singes n'ont jamais fait une bombe atomique. Bonne nouvelle, un homme qui se voudrait totalement homme, même s'il était capable de faire une bombe atomique, ça ne s'enverrait pas quand même sur la tronche. Mauvaise nouvelle, nous sommes tellement à moitié déséquilibrés que nous sommes capables de faire, si on détruisait la planète aujourd'hui, on est bien barré pour ça, ou éventuellement l'espèce humaine. Hein. Hier, on était dans les débats justement sur la biologie synthétique, je pense que Michel aurait adoré parce qu'il serait encore sous la table transi d'effroi de tout ce qu'on peut faire juste en s'amusant. Et donc, est-ce que on pourrait pas essayer de faire finalement en sorte que super, on a augmenté ou on a augmenté la moitié, et si on augmentait l'autre moitié? Alors pour ça, eh bien, je vous propose de regarder, je vais vous raconter une petite histoire, parce que pour arriver à comprendre ce que l'on pourrait devenir, on va revenir en arrière vers le passé. Et pour ça, je vais vous parler de Simonide de Céos. Simonide de Céos, eh bien, c'est un grec, c'est un artiste grec. Et comme tous les artistes grecs, il avait un métier, en gros, c'était de venir faire l'éloge du maître des séances, chaque fois qu'il y avait une grosse teuf, pardon, à l'époque on disait une grande fête. Et donc il venait, et puis il faisait l'éloge du maître des séances devant tout le monde, et après il était invité à manger avec tous les autres, etc. Voilà type qu'un jour, notre Simonide, il a une idée un peu bizarre. Au lieu de faire l'éloge du maître des séances, il décide de faire l'éloge du maître des séances, plus de Castor et Pollux, parce qu'il aimait bien ces dieux-là. Alors le maître, pas très heureux quand même, il dit, voilà, bah écoute, moi je te paye la moitié, et l'autre moitié tu t'arranges avec tes dieux, avec Castor et Pollux, hein, parce que ça va comme ça. Et puis il a quand même accepté que notre Simonide, eh bien il mange avec tout le monde, il avait même droit à une assiette complète, pas une demi, donc c'était déjà ça, mais voilà. Et puis il nous raconte, alors c'est des textes latins, parce qu'on a perdu les textes grecs malheureusement, mais les textes latins nous le disent, eh bien, dans le repas, quelqu'un vient taper sur l'épaule de Simonide de Céos et lui dit, il y a deux jeunes gens qui t'attendent dehors. Un peu surpris, Simonide sort, et au moment même où il sort dehors, le toit s'effondre sur tous les convives, tout le monde mort, écrabouillé. Écrabouillé à tel point que même les proches étaient incapables de reconnaître leurs parents. Catastrophe totale. Et là, eh bien, Simonide a fait quelque chose d'assez étonnant. Il a été voir chacun, et puis il a dit, voilà, lui c'est un tel, enfin, ce qu'il en restait, hein, etc., pour pouvoir enterrer les morts avec les bonnes personnes. Alors, si vous vous rappelez ce que j'ai dit un peu avant, vous dites, bon, s'il y en avait 4, 5, 6, 7 à l'époque, il n'avait pas moins de problèmes de voiture et de percepteurs, donc on peut se dire qu'il avait encore ses 7 cases. Mais là, il y avait 150 convives. Comment il a fait? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il a expliqué comment il avait fait. Il avait fait ça d'une façon très simple. À l'époque, eh bien, il était déjà venu pas mal de fois, il connaissait parfaitement bien le lieu dans lequel se tenait la réception. Et les tables étaient d'ailleurs disposées de la même manière, avec le même nombre de chaises, etc. Et donc, chaque chaise, pour lui, était quelque chose qu'il connaissait bien. J'allais dire, qui était dans sa mémoire à long terme, si je parlais un peu plus moderne. Et donc, ce schéma, ce plan qu'il avait dans sa mémoire à long terme, qu'il avait bien intégré, eh bien, il pouvait y associer, à un moment donné, toutes les personnes qui venaient de façon conjoncturelle, donc, qui étaient dans sa petite mémoire à court terme. Et l'alliance des deux faisait qu'à un moment donné, eh bien, il pouvait se mémoriser ça un peu mieux. Alors, en faisant ça, eh bien, il a pu mémoriser 150 choses au lieu d'en mémoriser 5, 6 ou 7. Alors, jusqu'à présent, on a cru, bah, c'est super, c'est de la mnémotechnique. Alors, je vais vous reprendre un autre exemple un petit peu plus récent, c'est ce qui se passe au Moyen-Âge, pour arriver à voir comment, finalement, au lieu de mettre un vocabulaire symbolique, en mettant un plan symbolique dans notre mémoire à long terme, eh bien, on peut arriver à faire quelque chose qui ne serait pas très éloigné de ce que l'on fait ici. Mais dans un domaine totalement différent, non plus dans un des domaines de la raison, non plus dans le domaine du raisonnement et du discours, mais dans le domaine de l'intelligence collective, du conflit d'intérêts, de la gestion du conflit d'intérêts, ou alors de la créativité. Et alors pour ça, eh bien, faisons un petit zoom et regardons comment ça se passait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, eh bien, les moines, ils passaient beaucoup de temps dans leur cathédrale. On peut dire qu'ils la connaissaient bien. Ils la connaissaient aussi bien que vous, votre maison. Et alors dans une cathédrale, il y a une particularité, c'est que vous avez, surtout à l'époque, plein de chapiteaux, déjà dans une colonne, allez hop, on en met 4 chapiteaux, des statues et des vitraux. Entre 100 et 200 loci, on appelle ça des loci, des lieux de mémoire. Alors regardons un lieu de mémoire, et ici, eh bien, voilà un magnifique chapiteau de la basilique de Saulieu, Saint-Andoche, je fais de la pub au passage, et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit la fuite en Égypte. Alors vous allez dire, c'est un truc religieux, très bien. Mais notre moine, qui n'était pas que religieux, qui était aussi un homme, disait, eh bien, maintenant j'ai une question, je me pose un peu la question, là, je viens ici, par exemple, je vais vous voir, donc je viens en déplacement ici, eh bien, la notion de déplacement, je vais la mettre dans cette place-là, à cet endroit-là, de la cathédrale, et puis là, je suis en train de parler du conflit d'intérêts, eh bien, je vais prendre cette statue-là, par exemple, qui représente deux lions en train de se battre, et un pauvre gars derrière, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Et alors, on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il va cogner sur le lion, d'ailleurs, ou s'il se dit ouïe aïe sa barde. Mais en fait, c'est pas grave. Je vais, moi, choisir ce que ça représente, et je vais mettre ça, et je vais commencer à mettre comme ça, eh bien, mes idées partout. Alors, la grande nouveauté, je vous ai dit que je vais vous préparer des travaux assez récents. Là, ça date de, je crois, moins de 10 ans. En histoire, eh bien, jusqu'à présent, on connaissait ça sous le nom d'art de la mémoire. Et on croyait que c'était juste un truc mémotechnique où un moine, comme ça, pouvait préparer un discours et puis il suivait toujours le même chemin. Et avec ça, eh bien, il pouvait mémoriser en mettant dans chaque statut une idée. De la même manière que, rappelez-vous, tout à l'heure, on mettait dans chaque mot une idée. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout parce qu'en fait, ils suivaient pas forcément le même chemin. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils connaissaient ça tellement bien que même quand ils étaient plus dans la cathédrale, ils pouvaient continuer de penser avec ces idées-là. Ils n'avaient plus les idées sous les yeux, ils continuaient de penser, non plus avec cinq choses, les cinq choses que je peux garder à l'esprit, mais avec 100 ou 200 choses. Et grâce à ça, eh bien, ils pouvaient arriver à connecter un peu de la même manière qu'avec nos quelques 1000 ou 2000 mots minimum, eh bien, on arrive déjà à penser avec 100 ou 200 lieux symboliques, au lieu de mots symboliques, eh bien, on peut commencer à penser. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais on a cru que c'était l'art de la mémoire. D'ailleurs, ça a continué cette histoire-là au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, ça s'est fait, alors c'était un peu moins religieux, donc ça s'est fait avec les théâtres, voilà, le théâtre de Camillo, par exemple, où il a essayé de mettre tout le savoir, en époque, on a commencé à réfléchir à comment on peut mettre l'ensemble du savoir humain, sur un théâtre typique, avec des grandes divisions, etc. Et puis, un petit peu plus tard, mais très peu de temps après, vous avez la même chose avec Giordano Bruno, qui lui a essayé de faire des cartes, mais alors ces cartes-là sont intéressantes parce que premièrement, elles sont pas géographiques. C'est des cartes des lettres. Bon, c'est une carte sémantique comme une autre, hein, mais c'est pas une carte géographique. Et puis surtout, il a essayé de mettre ses cartes sous des roues dentées, de manière à essayer de connecter les idées entre elles. Parce que ce qui est intéressant dans notre, si je reprends notre cas de cathédrale, c'est qu'à un moment donné, eh bien, penser, c'est essayer de prendre une idée là et de la mettre là. Et comment je vais réfléchir au conflit d'intérêt par rapport à ce que je vais présenter dans mon déplacement quand je viens ici. Alors je pourrais dire, bah tiens, je vais essayer de chercher, je vais réfléchir à ça. Ah bah tiens, il faudra que j'y pense, et ce que j'en connais ici, ce que je peux faire des tas de choses, etc. Donc voilà un petit peu un exemple. Et puis après, quoi? Et bah puis après, rien. Rien parce que ça s'appelle, ou ça s'appelait, l'art de la mémoire. L'art de la mémoire, et donc on s'est dit, bah attendez, Gutenberg il est là, alors la mémoire, maintenant on s'en fiche, hein, c'est pour les bouquins. Socrate il est mort d'abord. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, encore pire, moi, tous les numéros de mes copains, maintenant, ils sont dans mon téléphone mobile, j'ai même plus besoin de m'en rappeler. Alors la mémoire, vraiment, on s'en fiche totalement. Sauf que ce qu'on a découvert récemment, c'est que c'est pas simplement un art de la mémoire, c'est un art de penser. Et Mary Carruthers, donc, qui avait fait ces travaux-là, avait intitulé son bouquin « Craft of Thought », c'est-à-dire « L'art de penser », pour arriver à montrer à quel point, effectivement, c'était une autre façon de penser par rapport à celle-ci. Alors, regardons un petit peu maintenant, nous avons la figure complète, on va la mettre là maintenant qu'on a notre plan complet. Vous pouvez même suivre justement sous la forme de carte et sous la forme linéaire, donc avec les deux modes de pensée grâce aux deux écrans. Eh bien, nous avons donc une première façon de penser qui consiste à mettre les idées les unes après les autres, enchaîner les causes et les effets, magnifique pour faire du raisonnement. Et donc on fait ça, alors l'Occident fait ça très très bien depuis les Grecs, hein, très bien, on a développé ça encore plus avec Descartes, avec Newton, etc. Très bien. Et puis on a été plus loin que notre limite physiologique grâce à quelque chose qu'on a stocké dans notre mémoire à long terme, ça c'est une super astuce, du vocabulaire symbolique dans ce cas-là, et grâce à ça, eh bien, on est capable de faire un discours, c'est-à-dire une question, un cheminement, une conclusion. Juste ou fausse d'ailleurs, mais ça dépend, vous choisirez. Et puis, deuxième cas de figure, eh bien, ici, nous avons notre mémoire de travail, cette fois, la deuxième, qui, elle, est plutôt pour relier des choses entre elles, nouvelles. Donc, différents points de vue, rappelez-vous, quand on regardait sur le tour de la pièce. Ou alors, deux directions opposées, pour essayer de voir comment les deux, en fait, font quelque chose en laissant ça en tension, et pas forcément en disant, il y en a un qui doit gagner et pas l'autre. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça nous a fait apprendre? Est-ce qu'on va faire du saut qualitatif? D'ailleurs, comme disait Hegel. Et puis pour ça, eh bien, il va falloir stocker dans notre mémoire à long terme eh bien, un plan symbolique. Alors, regardons un peu plus autrement les choses. Le premier mode de mémoire, ça ressemble à avancer, comme je disais. En gros, vous vous baladez dans un labyrinthe. Le grand problème des labyrinthes, c'est qu'en plus, il y a des croisements. Alors quand vous arrivez à un croisement, vous vous grattez le crâne et puis vous avez faire du raisonnement en plus pour vous dire si je vais, je voudrais monter, je vois que le chemin à droite monte légèrement, le chemin à gauche se descend légèrement, eh bien d'accord, je vais prendre un chemin. Et puis, manque de chance, peut-être que celui qui montait, il descend, celui qui descendait, il remonte après. Bref, ça va pas. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, on revient en arrière. Si vous n'avez pas le fil d'Ariane, vous êtes un peu perdu. Et puis éventuellement, dans le meilleur des cas, ça se termine, on se fait bouffer par Minotaure, et comme ça, c'est réglé. La deuxième façon de voir les choses, ça serait de dire, je regarde ça avec un plan. Alors un plan, c'est intéressant, parce que là, on peut dire, vous êtes ici, ou je suis ici, je veux aller là, attention, pas par là, parce que là, il y a le Minotaure, hein, faut faire gaffe, et avec ça, je vais pouvoir construire n'importe quel chemin. Donc, je vais être dans une logique totalement différente. Alors vous allez me dire, si on n'a que des plans et qu'on n'est jamais dans le labyrinthe, on ne va pas faire grand-chose de concret. Tout à fait d'accord. Et si vous êtes dans le labyrinthe tout le temps et que vous n'avez pas de plan, vous risquez de tourner en rond comme les souris. Et donc, ces deux modes de pensée eh bien, correspondent bien à deux façons de voir les choses. Alors pour ceux qui ont un peu du mal avec mes exemples un peu trop historiques ou un peu trop artistiques, je prends un exemple plus geek. Prenez votre GPS. Et dans le GPS, eh bien, vous avez la façon de vous déplacer sur la route. De temps en temps, vous voyez une vision. Alors, on l'appelle égocentré, hein, ce que vous voyez avec vos yeux. Et de temps en temps, vous voyez, vous pouvez l'avoir sous la forme d'une carte allocentrée. Et le fait d'avoir les deux, ça aide quand même pas mal. Le fait d'avoir les deux, bah, c'est peut-être une bonne façon de penser. Sauf que, évidemment, on a un peu perdu un truc dans l'histoire. C'est comment on va faire pour avoir une carte. Parce que le vocabulaire, ça va. On en a quelques milliers de langues. D'ailleurs, limite, tant mieux qu'on ait des langues différentes, hein, parce que les grands, ceux qui ont le plus de chance, c'est ceux qui parlent pas mal de langues. Et là où je suis absolument épaté, c'est quand je regarde les Africains, qui ont la capacité de parler français, anglais, italien, etc., parce qu'ils parlent aussi le Wolof, ils parlent éventuellement l'arabe, ils vont parler le Haoussa, ils vont parler ce que vous voulez. Et donc, ils vont avoir un nombre de langues assez importantes. Eh bien, ça va permettre d'avoir plusieurs façons de penser. Donc, ça évite aussi que la façon même dont on va symboliser ici soit trop structurante. Donc, tant mieux, si je faisais mon exposé en chinois, eh bien, j'essaierais de dire la même chose, mais ça, on penserait totalement différemment. Donc, pourquoi pas avoir plusieurs cartes. Sauf que le problème, c'est qu'on en a zéro. Alors, essayons de regarder, pour cette dernière partie, maintenant, nous sommes au XXIe siècle, après la coupure de la Renaissance, où on a tellement bien développé notre mode de raisonnement, on a tellement ce succès grâce à Newton, qui nous a apporté le mécanisme, et donc une vision du monde absolument déterministe d'ailleurs, puisque s'il y a un point de départ, un seul chemin et une seule conclusion, je peux vous dire, c'est sacrément déterministe. Bon, ça a marché jusqu'au XXe siècle à peu près, après ça marche pas bien. Eh bien, après l'immense succès du développement des modes de raisonnement après les Grecs et après la Renaissance, eh bien maintenant, est-ce qu'on pourrait pas essayer de revenir à ce qu'on savait faire à moitié peut-être avant, et essayer de le faire à la façon XXIe siècle, en utilisant les outils, notre compréhension des sciences cognitives, et les outils que l'on a, informatique et autres. Alors pour ça, eh bien, regardons un peu plus précisément, on va se poser la question, donc, de qu'est-ce qu'on va faire, quelle carte on va pouvoir avoir. Alors si vous n'avez pas de carte, je veux dire, géographique, pas de carte dans la mémoire à long terme, eh bien, là, ce qu'on va faire, on va faire des choses géniales, du mind mapping, du schéma heuristique, comme on dirait en français. On va mettre les idées sous forme cartographiée plutôt que linéaire. Alors ça, c'est génial, parce que si on travaille ensemble, eh bien, vous allez pouvoir voir ici des idées même contradictoires. Même si on n'est pas tous d'accord ensemble, tant mieux. L'objectif n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. C'est de pouvoir montrer que justement, il y a peut-être des points de vue différents aussi. Pourquoi pas? Et que la question de la pièce, est-ce qu'elle est pile ou elle est face? Eh bien, ça va permettre de dire, nous nous sommes trompés sur la question, plutôt que d'essayer de savoir si la réponse est bonne ou mauvaise. Alors, ça c'est bien, sauf que ça pose un petit problème. Et c'est une vraie révolution. Et je vous conseille de travailler en groupe là-dessus. J'en discutais hier avec un spécialiste du mind mapping. Il disait, mais finalement, on l'utilise pour penser tout seul. Mais c'est un outil absolument fantastique, y compris dans la résolution des conflits, dans la façon de penser ensemble, etc. Sauf que, si j'éteins le vidéoprojecteur, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, même si on connaissait ça et qu'on avait regardé, alors c'est en petit, donc là, vous voyez pas trop, mais si on avait construit ensemble et qu'on sache bien ce qu'il y avait là-dedans, il y a tellement de choses, il y en a plus que 5 ou 7, 6 ou 7 ou 8 ou 9, eh bien que si j'arrête le vidéoprojecteur, on arrête de penser, et à la fin de la réunion, on arrête de penser ensemble, c'est fini. Imaginez maintenant que ça, on arrive à le mettre sur quelque chose qu'on est en une carte ensemble. Ça veut dire qu'une fois sorti de la réunion, je vais pouvoir continuer de penser. Alors qu'est-ce que je connais comme carte? Alors il y en a une quand même, tiens, je vais vous la présenter, chez moi. Alors je vous présente, voilà, j'habite dans le Morvan. L'avantage, je connais très très bien ce coin-là maintenant, parce que j'y habite, évidemment. Donc je connais ce lac, je connais chaque route, je connais les petits villages, etc. Et je peux m'amuser à mettre les idées, dans une conférence auquel j'assiste, à différents endroits. Ou alors, je peux choisir l'intérieur de ma maison. Alors je vous présente ma longère, là, ici en photo, ici en plan. Et on peut mettre, bah tiens, vous savez, un nombre de choses incalculables sur votre maison. Où se trouve le téléphone? Où se trouve la lampe de chevet? Combien y a de tables autour de chaises autour de la table? Où se trouve l'armoire? Où se trouvent même où sont rangées les assiettes? Donc vous connaissez au moins 100 ou 200 lieux de mémoire chez vous. Et amusez-vous à faire ça. Vous allez voir que ce que l'on est en train de dire, tiens, par exemple, je sais pas, moi, le blabla, tiens, je vais le mettre dans le téléphone. Et puis, si ça, bah tiens, je vais le mettre, je vais mettre où? Bah tiens, je vais le mettre là, tiens, dans la petite pièce d'entrée, là, je mets le porte-monnaie, etc. Là, bah, je vais le mettre, tiens, dans la lampe en haut, pourquoi pas. Ou j'ai un ensemble de lampes ou des choses comme ça. Et puis, comme ça, eh bien, ça, vous allez voir qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. C'est que même quand vous ne serez pas chez vous, quand vous connaissez bien chez vous, eh bien, vous allez continuer de penser là-dedans. Bon, d'accord, mais là, je vous ai présenté chez moi, mais vous ne connaissez pas. Pas de chance. Alors, vous pourriez penser avec chez vous, mais moi, je ne connais pas. Donc, c'est un super moyen de penser tout seul. Et tant mieux, c'est une vraie révolution pour pouvoir avoir ce mode-là. Mais par contre, ça ne résout pas le problème de comment on pense ensemble. Alors, on a essayé de trouver des différentes choses. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme carte collective? Alors, prenons la carte du monde. Tiens, c'est une carte qu'on est quand même pas mal à connaître. Si vous êtes normalement constitué, si vous n'êtes pas américain, vous connaissez à peu près une quarantaine de pays. Environ. Si je vous dis où se trouve la Chine, où se trouve l'Inde, où se trouvent les États-Unis, où se trouve l'Afrique du Sud, ça va. Bon, si je vous demande certains pays, après, certains sauront, d'autres non. Mais nous avons au moins une quarantaine de pays, et donc on pourrait s'amuser à mettre des idées sur les pays. On s'est dit, tiens, bonne idée. Mais ça, c'est une fausse bonne idée. Parce que, par exemple, hier, on essayait d'utiliser des cartes pour travailler sur la biologie synthétique. Vous savez, la biologie synthétique, c'est un truc où vous fabriquez un ADN depuis zéro sur votre ordinateur, hop, on le fabrique en vrai, on le met dans une cellule, et hop, ça fait un nouveau truc. Pourquoi pas, demain, une bactérie qui vous ferait toutes les bactéries nécessaires aux vivants, tiens, pour rigoler, quoi, par exemple. Donc, ça pose plein de questions intéressantes, d'éthique, par exemple, de gouvernance, de tas de choses comme ça. C'est le genre de questions qu'adore Michel, par exemple. Et, alors, la question, c'est, d'accord, mais sur quel pays on met les bioterroristes? Alors, suivant d'où vous venez, vous pourrez dire, certains diront, bah, tiens, on va les mettre en Irak, en Iran, ou aux États-Unis, ou vous voulez, enfin bref. Mais on va pas tous être d'accord, et puis, en plus, on va avoir un problème. C'est que quand on met des idées, souvent, on met des valeurs sur les choses. Et mettre des valeurs sur des lieux où habitent des personnes, ça marche pas très bien. Donc, non, c'est pas une bonne idée. C'est dommage parce que c'est une des rares cartes qu'on avait en commun. Alors, deuxième essai. La carte du ciel. Ah, c'est peut-être sympa, ça. La seule chose, c'est que, bon, je connais pas bien la carte du ciel, mais on pourrait l'apprendre, ça me plairait bien d'ailleurs d'apprendre la carte du ciel. Et puis là, l'avantage, c'est qu'il y en a qui seraient plus balèzes que nous. Par exemple, c'est les Touaregs qui m'ont appris à regarder le ciel, et là, ils connaissent plein de trucs. Alors c'est bien parce que vous avez des groupes d'étoiles qui sont par 3, par 4, par 5, donc suivant les idées, comment elles sont structurées, vous pouvez mettre des tas de choses dans le ciel. Ah oui, mais on a encore un autre problème. Parce que les gens de l'hémisphère sud, ils n'ont pas le même ciel que nous. Et rebelote, donc on a, ça va pas être très facile de penser ensemble si on veut avoir vraiment une sorte de langage universel. Alors, peut-être, on a quand même un plan qu'on connaît tous. C'est pas le plan de la maison, c'est pas le plan de l'environnement, c'est pas le plan d'une ville, parce que personne ne connaît une seule ville dans le monde que ce serait connu tout le monde. Mais ça serait le plan du corps humain. Alors si vous n'êtes pas physiologiste, vous connaissez qu'une centaine peut-être de lieux, parce que vous savez qu'il y a 5 doigts, il y a des yeux, il y a un nez, etc. Vous savez même peut-être qu'il y a 3 phalanges, si vous êtes un peu plus balèze, et puis si vous êtes physiologique, là vous pouvez plus loin. Mais déjà avec 100 lieux, c'est pas mal. On fait pas mal de choses. Alors ça, on s'est dit, ça c'est super. Le corps humain, c'est un truc, quel que soit le langage qu'on utilise, c'est un plan sur lequel on pourra utiliser ça. Ah ouais, mais alors, on a eu un petit problème quand même, on l'a testé. On l'a testé, et puis à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, dans la discussion, je sais plus de quoi on parlait, il y avait un groupe de 5 idées qui allaient ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les 5 idées sur les 5 doigts de la main. Puis après, on parlait de la parole et du langage, justement. Le langage, ouais, on va le mettre à la bouche. Et puis, on a parlé aussi de la façon, au contraire, d'avoir les choses plutôt visuelles, cartographiées. Ah bah tiens, on va le mettre dans les yeux. Ça se passe bien. Et puis, à un moment donné, on se dit, mince, les 5 choses auxquelles on avait pensé, finalement, ne sont pas 5, elles sont 6. Et rajouter un 6e doigt, ça fait des ordres. Et donc, ça, c'est pas très facile pour nous de dire, bah tiens, finalement, maintenant, on va rajouter un 6e doigt. Et donc, on était pratiquement en train de l'abandonner. Et j'ai vu récemment, d'ailleurs, des travaux qui ont été faits sur des débats sur la pauvreté au Canada, avec une personne qu'on va retrouver un peu plus tard, d'ailleurs, Viviane Labrie, qui a fait un truc très intéressant. Ces débats, pour essayer de gérer toutes les questions, tous les points de vue que représente le thème qui était la pauvreté dans ce cas-là, au Canada, eh bien, elle le fait avec de la sculpture humaine. Sculpture humaine, c'est-à-dire que le 6e doigt, eh bien, il est rajouté par une personne. Et puis, on a une autre personne, s'il faut mettre, etc. On voit, on peut prendre des poses. Les personnes elles-mêmes font le mind mapping. Il y a quitte à coller des post-it, d'ailleurs, sur le front pour se rappeler que le front de nain, il représente ça, etc. Que telle personne représente ça. Je peux vous dire qu'après, il n'y a pas besoin de prendre des notes parce que tout le monde se retient à vie l'ensemble du schéma heuristique. Et tout le monde est capable de continuer de penser après parce que quand on a fait partie physiquement, corporellement même du schéma, ça marche pas mal. Donc ça, c'est une piste extrêmement intéressante. Mais essayons d'aller un peu plus loin. Et est-ce qu'on pourra avoir d'autres cartes? Alors, il y a des cartes qui ne sont pas du tout géographiques. Par exemple, regardons un peu un truc qui a été aussi très très étonnant. Les psaumes. Alors, les psaumes dans notre culture occidentale. Alors, c'est un truc un peu étonnant. Bon, c'est un des livres de la Bible, d'accord. Mais pourquoi les moines, leur métier, j'allais dire, pratiquement, c'est pendant 7 fois par jour, pratiquement, ils vont pas à la messe, ils vont dans leur église pour réciter les psaumes. Pourquoi les psaumes seraient plus importants que tous les autres livres de la Bible? Alors, on pourrait se dire, ça, c'est parce que c'est ce que Dieu demande de faire.
Alors, je vous propose la lecture d'un des psaumes.
Pour ce que Dieu nous propose de faire. Heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. Psaume 136. Bon, ça n'a pas tout à fait ce qu'il faut faire. Non. Là, on a un petit problème. Donc, ça veut dire, probablement, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Et les travaux récents, eh bien, ont montré, effectivement, les travaux de Mary Kauser, ont montré que ces 150 poèmes représentent 150 poèmes qui représentent 150 états mentaux de la personne. La haine, la colère, l'amour, la joie, l'envie, la jalousie, tout ce que vous voulez, en gros. Pas forcément de façon décomposée de façon précise, mais ça fait 150 choses. Et ce qu'on a découvert, c'est que les moines au Moyen-Âge, eh bien, ils utilisaient ça, et donc s'ils récitaient ça autant de fois par jour, c'était comme un outil pour apprendre,
qu'ils avaient pas
quand ils étaient petits, de vocabulaire, mais pour apprendre une cartographie, pour penser, en fait. Et donc, ça veut dire que quand je me retrouve dans un tel état, je me dis, bah tiens, je me retrouve là, dans les psaumes. Et puis, je vais y retrouver immédiatement tout ce que j'ai déjà vécu là, et les commentaires faits par les autres. Et éventuellement, je vais être même capable de relier un psaume à l'autre, et donc de passer d'un état mental à un autre état mental. Je vais être capable de penser de cette façon-là. Et ça, c'est assez fabuleux. Alors, j'en ai discuté avec des moines récemment, avec des spécialistes, justement, des psaumes. Un des moines qui a écrit, justement, le livre qui fait référence sur les psaumes. Et il m'a dévoué, il m'a dit, mais oui, mais nous, on continue de faire ça. Hein. Là, je peux vous dire que les 150 psaumes, ils connaissent absolument par cœur. Et donc, ils connaissent chaque mot. Et même, ils sont un peu embêtés, mais ils ont quand même choisi de mettre, y compris les phrases. Alors, ils les mettent entre crochets, des fois. Mais ils les disent quand même, oui, oui. Même les phrases qui semblent extrêmement dures, qui sont des états mentaux de colère, de honte ou de choses extraordinaires. Eh bien, ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne savent plus comment ça marche. Alors, l'avantage, c'est que même quand on ne sait pas très bien comment ça marche, ça leur permet un peu de penser, parce qu'ils se rendent compte que malgré tout, eh bien, ils pensent un peu avec, mais à 10% de ce qu'ils pourraient faire s'ils utilisaient ça. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, j'ai présenté ça aussi à Shenyang. Donc, il y avait le sommet du multimédia et de l'Internet. C'était le sommet mondial. Et on retrouve la même chose aussi avec la culture asiatique, avec les hexagrammes du Yiking. Alors là, je vous présente le bagua, vous avez des trigrammes, yin, yang, yin. Alors là, c'est yin, 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 là, c'est yin, yin, yang, là, c'est yang, yin, yang, etc. Vous avez 8 combinatoires, et puis ces 8 combinatoires, ça fait 64 chemins. Alors, on vous raconte que, pareil, alors cette fois, c'est plus un truc religieux, c'est un truc divinatoire, on nous dit, puis des tas de choses comme ça. Mais vous avez 64 façons d'aborder un problème. Et à force de tirer le yin dans tous les sens, eh bien, vous commencez à avoir une cartographie des 64 façons d'aborder un problème, tout simplement. Et puis, vous allez passer d'un hexagramme à l'autre, etc., etc. Et donc, en fait, eh bien, effectivement, c'est aussi un mode de pensée là-dedans. Ce qui veut dire que, finalement, ce mode de pensée que nous on a perdu, qui est pas dans notre radar, qui est dans notre angle mort de notre société actuellement, eh bien, est utilisé. Et de façon encore plus extraordinaire. Cette fois, on retrouve Viviane Labrie, c'est une chercheuse canadienne, qui, elle, a travaillé sur les contes de fées. Les contes, mais là, vous savez que les contes de fées, c'est pas du tout un truc écrit, normalement, c'était un conte oral. Et elle s'est beaucoup intéressée à comment, dans la tradition orale, on mettait un conte, et on le transmettait à un autre. Et alors, il y a un truc qui est assez extraordinaire, c'est que vous prenez un bon conteur, qui raconte à un mauvais conteur. Le mauvais conteur, il sera bien ce qu'il peut, et il va raconter à un bon conteur. Et le bon conteur, sans faire exprès, alors qu'il n'a pas entendu le conte originel, il va reconstruire certaines structures. Et lorsqu'elle a regardé de très près, elle s'est rendue compte, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, eh bien, c'est le plan sur lequel se déroule le conte, les différents endroits, les différents moments forts, les différentes choses importantes. Et par contre, les chemins par lesquels on passe de là ou par là, eh bien, changent éventuellement dans la tradition orale. Donc, alors même que l'on transmet les choses oralement avec notre vocabulaire classique, eh bien, ce qui se passe de cerveau à cerveau, c'est une carte. Et qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de contes? Eh bien, c'est un ensemble de problèmes et de solutions, de façon de traiter les choses. Et donc, encore une fois, on a une cartographie, cette fois plus géographique. Un petit quatrième exemple pour le plaisir. Ici, les Tibétains, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont fait le premier congrès mondial de médecine. Parce qu'ils avaient un problème, ils n'avaient pas de médecine. Et ils ont dit, bon voilà, mais alors il y avait les Perses, ils ont de médecine. Il y a les Indiens, ils ont de médecine. Et les Chinois, ils ont de médecine. Alors bon, on va essayer de faire quelque chose de bien, on va prendre une médecine le mieux possible. Alors ils ont invité les Perses, les Indiens, les Chinois. Alors si ça s'était passé vraiment en Occident, tout le monde se serait tapé dessus, et le plus fort aurait imposé sa médecine. Ou alors on aurait eu un truc complètement incohérent, ça on est très fort aussi pour le faire, hein. Je vous laisse trouver des exemples. Non, ils ont fait quelque chose de plus intéressant que ça. Ils ont fait une médecine qui essaie de marier tout ça. Mais essayer de marier des médecines incohérentes entre elles avec un seul discours, ça marche pas. Et donc l'enseignement de la médecine tibétaine, c'est la seule médecine au monde où elle s'enseigne sous la forme d'un arbre. Alors vous avez un arbre des diagnostics, un arbre des soins et un arbre des équilibres. Et suivant le soin à faire, eh bien vous pouvez avoir donc là des parties où vous avez des couleurs bleues, jaunes ou autres, et vous allez utiliser des feuilles d'une médecine ou d'une autre. Et donc vous pouvez avoir des médecines incompatibles entre elles, mais vous avez une cartographie suivant les soins et sur les diagnostics de ce que dit chacune des médecines. Et donc ils sont capables d'utiliser absolument les trois médecines sans aucun problème. La seule chose, c'est qu'on n'apprend plus à ce moment-là un texte, on apprend une carte. Alors, quelle carte? On a vu plusieurs solutions. Pas de carte du tout, c'est bien, ça marche. Hein. Malgré tout, le mind mapping, c'est une superbe évolution. Mais on a vu que ça ne permettait pas de sortir et de continuer de penser après. La carte personnelle, ça marche aussi, mais pour penser à plusieurs, c'est pas terrible. On a cherché quelques cartes collectives, on a un peu du mal, on a trouvé quelques petites solutions, mais c'est pas terrible. Il y a des tas de choses où on peut apprendre par cœur. Alors ça, ça marche bien, ça continue de marcher. Et si je prends ici la tradition des griots, ça ressemble à un conte de fées, sauf que qu'est-ce qui cartographie? Eh bien, un griot, il n'est pas là pour raconter des histoires, il est là pour raconter une généalogie. C'est-à-dire qu'il vient chez quelqu'un et il va raconter toute la généalogie depuis je ne sais pas combien de descendants. Mais à chaque personne, il va y mettre, lui, il était un peu roublard, lui, c'était quelqu'un de vraiment très affable, etc. Il va y mettre des émotions, des sentiments de personnes, des qualificatifs de personnes. Et donc, en fait, il fait une cartographie de type de personne, simplement sous couvert d'une généalogie. Et donc, en fait, on retrouve à plein d'endroits comme ça des choses qui peuvent s'apprendre en faisant de la simplement des choses par cœur. Ouais, mais on est un peu feignant quand même, on n'a pas trop envie d'apprendre trop de trucs par cœur. Donc, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver encore des solutions? Alors, on a essayé, et on est pour terminer, j'aimerais vous présenter les tests que l'on fait actuellement. Il se trouve que si je vous propose de vous emmener, tout à l'heure je vous ai montré, tiens, le Morvan chez moi, vous êtes perdu, vous ne connaissez pas. Et puis, au bout de 2-3 fois, vous vous promenez, et ben, vous commencez à, j'allais dire, vous fabriquer une carte mentale. Et votre capacité à vous construire une carte géographique est absolument extraordinaire. Vous allez relativement vite, donc au bout de quelques fois, sans faire beaucoup d'efforts, sans mémorisation, vous allez être capable de mémoriser un nouveau lieu où vous arrivez. La première fois que vous arrivez ici, vous êtes un peu perdu. La deuxième fois, ça va mieux. La troisième fois, c'est gagné. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir, de cette manière-là, commencer à penser. Est-ce qu'on pourrait pas essayer, parce que ça, ça marche pas bien avec les idées. Si je vous présente plein d'idées, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, vous avez oublié quand même. Toute l'astuce, ça consiste à associer les deux, évidemment. Une carte que j'ai bien mémorisée et une que je voudrais, avec laquelle je voudrais penser. Pas simplement mémoriser, mais penser. Eh bien, on va essayer de dire, est-ce que je pourrais pas créer une carte collective? Et là, pour terminer, je voudrais vous présenter deux exemples, deux expérimentations que l'on fait actuellement pour tester, effectivement, la possibilité de recréer un langage commun à un moment donné. Et deux expérimentations, ça va être très différente. La première, et c'est pour celle pour laquelle j'étais hier à Paris, c'est une carte de ville, comme vous pouvez le voir. Et l'objectif, il était de faire du débat public. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la biologie synthétique, c'est un truc sympathique, ça pose plein de questions intéressantes, plein d'opportunités, génial, plein de risques. Comment gérer tout ça avec des points de vue aussi différents? On avait eu des chercheurs qui nous ont dit « Ah, mais alors c'est très bien, mais ça, la biologie synthétique, ça nous fait avancer dans la connaissance. Par contre, de toute manière, quoi qu'il arrive, même si on essaie de faire une molécule qui fabrique du carburant, des protéines qui fabriquent du carburant, après, au bout d'un moment, elle mute, elle fait autre chose, et de toute manière, le carburant n'en a plus. Donc, de toute manière, ça marche pas, ça produit jamais rien. Puis, il y a les autres gens qui disent, non, super, avec ça, on va pouvoir produire plein de choses, la connaissance, on n'y comprend rien, donc, ben, ça servira à rien. Par contre, on va produire des tas de choses, et surtout des tas de brevets. Alors, donc, finalement, des tas de points de vue différents. Comment essayer de faire ça? Alors, petite difficulté supplémentaire, c'est pas un débat public, il y en a 6. Et on en est au cinquième. Le sixième, c'est en fait la conclusion, on va dire. C'est il se passera donc au palais de découverte. Mais là, il y en avait donc un à la Cité des Sciences et quatre sessions de débat réellement au centre Beaubourg. Et donc, ce qu'on a fait, eh bien, on a commencé à cartographier, comme on le ferait avec un chemin heuristique, hein, comme on le ferait avec un mind mapping, mais sur 4 quartiers d'une ville. Alors, vous avez le quartier des écoles, c'est là où on a mis les différents concepts. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra se balader dans la ville elle-même. Là, j'ai juste mis une photo de la ville. Mais vous allez voir que dans l'école, eh bien, on a mis des définitions. Il y a la rue des quatre étapes, parce qu'il y a quatre étapes là-dedans, etc. Et puis, dedans, eh bien, on va avoir des choses. Et chaque petite maison représente ce qui a été dit par une personne à un moment donné dans le débat. Et c'est intéressant, c'est qu'il y a des maisons de couleurs différentes, donc qui représentent la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième session. Et on commence à voir des choses en tension, des choses complètement contradictoires, des choses qui se rejoignent. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir quelque chose de linéaire dans le temps, où quand on me dit « comment c'était la dernière session hier ?»« Ah, c'était génial, il y avait plein de trucs. » Ça parlait de quoi ? Je ne sais plus. Non, plutôt que d'avoir ça, eh bien, l'idée, c'est qu'à un moment donné, cette carte-là, eh bien, elle commence à prendre du sens, parce que je commence à la connaître à force de voyager dedans pendant 4 ou 5 séances. Et pour les gens qui ont participé, eh bien, on refait une petite balade et ça veut dire qu'on a été à chaque fois un cran plus loin. Donc on a essayé de tester ça sur des débats publics. Voilà une façon de faire du débat public. Alors là, c'est sur la biologie synthétique, ça peut être sur n'importe quel élément de société. Et on a choisi une ville. Vous avez bien compris qu'on aurait pu choisir une maison typique ou une ville ou un environnement. Alors justement, un environnement, on a fait un deuxième test. Ce deuxième test, eh bien, c'est comment on peut essayer de penser les nouvelles technologies. Je vous ai dit au départ que on a parlé un de mes centres d'intérêt à la FING, c'était justement de parler pas simplement d'Internet, mais des nanotechnologies, de la biotechnologie, de l'informatique, de la cognition. Donc on m'a demandé de prendre un truc comme ça. Et alors là-dedans, en fait, vous n'avez pas un livre, vous avez 4 ou 5 villes libres, parce que vous avez les neurosciences, vous avez les sciences cognitives, vous avez les sciences de la complexité, vous avez l'énergie, vous avez l'informatique, enfin bref. Donc comment, alors je vais vous donner une astuce, comment un auteur survit pour arriver à prendre un truc comme ça. Et l'astuce, c'est simple, j'oublie tout. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé les nanos, je vais voir tous les biologistes pour essayer qu'ils m'expliquent et puis que je comprenne, pour essayer de traduire ça dans les laboratoires pour que les décideurs puissent comprendre leur truc. Mais entre-temps, j'ai tout oublié, évidemment, les nanos. Et puis, une fois que je passe à l'informatique, la bio, hop, c'est parti. Et donc, à la fin, je suis content, j'ai fait mon livre. Et puis, écrire dans un livre, justement, ce que je vous présente aujourd'hui, malgré tout, c'était aussi un petit chapitre du livre. Alors, écrire dans un livre un truc linéaire, c'est pas suffisant. Donc, écrire que dans un livre, qu'un livre, c'est pas vraiment efficace, ça pose problème. Alors, on a essayé de le traduire sous forme d'une île. Une île virtuelle. Alors, elle n'est pas sous Second Life, elle est sous OpenSim, qui est une version ouverte de Second Life. Qui a un gros avantage pour nous, c'est que ça nous permet de pouvoir redémarrer des serveurs, faire ce qu'on veut, parce qu'on a les gens avec nous. Et donc, vous avez ici une partie qui représente les nanosciences et les nanotechnologies. Vous allez voir qu'ici, regardez, il y a une forêt de sapins. Ici, il y a une prairie. On ne voit pas très très bien ici, là, c'est un peu sombre. Mais vous avez une troisième forêt. Et à force de vous promener dedans, eh bien, vous saurez qu'il y a 3 types de nanos. Et vous saurez que ceci, c'est la forêt de sapins, nanosystème. Il y a les nanomatériaux et il y a les la nanoélectronique. Maintenant, c'est plus la microélectronique dans notre ordinateur, c'est la nanoélectronique. Et donc, les questions que se posent là ne sont pas forcément les mêmes qu'ici, etc. Donc, à un moment donné, vous êtes capable, comme ça, d'avoir sur l'île, il y a à peu près une quarantaine de lieux de mémoire. Des lieux de mémoire étant des forêts, des lacs, des rivières, des plages. Ici, c'est une plage aussi, pour montrer une autre façon de faire des nanos, etc., etc. On va faire une petite balade tout à l'heure. Mais l'idée, alors, c'est de dire, est-ce que avec ça, premièrement, on ne peut pas essayer de penser un peu mieux les nouvelles technologies? Et deuxièmement, on ne pourrait pas aussi en profiter pour pouvoir débattre ensemble? Alors, si on va faire un débat sur les OGM, tiens, exemple du débat totalement pourri où les positions sont bien affirmées. Eh bien, on va se positionner évidemment sur la partie bio, plutôt biomoléculaire d'ailleurs, et puis on va demander à chacun, mais toi tu parles de quel point de vue? Tu parles de là, d'accord, positionne-toi là. Et toi tu parles de quel point de vue? Très bien, tu te positionnes là. Éventuellement, d'ailleurs, on pourra même s'amuser à travailler, à faire d'ailleurs un petit tour pour voir la position des autres, et puis avant de commencer à discuter ensemble. On travaille d'ailleurs là-dessus avec Bruno Latour et puis avec le Media Lab de Sciences Po, qui travaille sur la cartographie des controverses, justement. Et donc, on pourrait faire ça. Mais le premier test qui a été fait, ben en fait, le premier pigeon, ça a été moi. C'est-à-dire qu'en fait, je fais une île, et en plus, alors c'est très spectaculaire, parce que vous faites un petit bout de crobar tout pourri, vous lui donnez ça à un gars extraordinaire, et hop, à un moment donné, il vous fait une terraformation. Extraordinaire, vous voyez l'île, oups. Et là, vous arrivez, vous dites... C'est incroyable. Et puis alors là, ah oui, c'est vrai, c'est là où j'ai mis les nanos. Tiens, c'est là où j'ai mis les aspects de sciences cognitives physicalistes. Ah bah tiens, ça c'est le cognitivisme que j'ai mis là. Ah puis ça c'est... Ah bah oui. Eh ben, je vais vous dire une chose. Au bout de 3 fois simplement, je me suis promené dans l'île. J'ai découvert un nombre de trucs dans ce bouquin-là. Absolument incroyable. Alors, je suis censé l'avoir écrit peut-être, mais je peux vous dire que j'ai pas vu le quart du dixième de ce qu'il y a dedans. Et donc, ça m'a permis de penser simplement quelque chose que j'avais été totalement incapable de penser avant. Et alors là, j'étais complètement bluffé parce que même si d'habitude on raconte des trucs, on n'a pas l'habitude de les tester, donc on est absolument sûr que c'est vrai sans les tester. Et quand on voit que ça marche vraiment, alors là, c'est vraiment épatant, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude que ça marche, quand on raconte des tas de bêtises. Et donc, c'est vraiment assez, ça a été assez spectaculaire, et donc on est en train de faire ça. Alors, l'île est en construction, mais je vais quand même vous faire, pour terminer, une petite visite. Petite visite guidée. Nous allons aller nous promener sur cette île, avec tout d'abord en haut. Alors là, vous avez le plan, effectivement, vous voyez qu'il y a une partie rouge, nano, ensuite une partie plutôt couleur bleue, informatique, une partie couleur verte, qui apparaît un peu orange ici, qui est la bio, une partie jaune, qui est d'ailleurs blanche plutôt, qui est sciences cognitives et neurosciences. Alors pour ça, eh bien, on va se promener un petit peu, et vous allez voir que l'avantage du monde virtuel, c'est que par rapport au monde physique, on peut voler. Donc ça vous permet d'avoir une vision égocentrée, je me promène, mais une vision allocentrée d'en haut. La voici. Voici donc nos grands domaines, et on va plonger dedans. Alors là, c'est des nuages rouges, verts, bleus, etc., juste pour bien situer les endroits. Et rapprochons-nous, et on va rentrer dans la partie nano. Alors, petite visite guidée, je vais vous présenter, comme ça, juste un petit peu, les nouvelles technologies, vues d'une façon différente, vues à la façon moyenâgeuse, médiévale ou grecque. Alors, voilà, nous arrivons ici, nous sommes sur un petit chemin. On a décidé que ce chemin, c'était le chemin du présent. Tout ce que vous aurez comme objet à gauche, dans la forêt, seront des objets qui existent déjà. Tout ce que vous aurez à droite seront des objets prospectifs, où on imagine que ça pourrait se faire, mais on n'est pas sûr. Et donc, nous sommes dans la forêt des nanosystèmes. Dans ces nanosystèmes, vous avez des systèmes mécaniques, vous allez voir ça, mais on peut avoir aussi de la nanofluidique, c'est-à-dire des systèmes liquides. Et comme c'est du rouge, évidemment, c'est une rivière de lave. Donc voici une magnifique rivière de lave, on voit pas, c'est un peu sombre hein, peut-être. Mais bon, vous imaginez à peu près la lave qui coule là, sentez la chaleur. Et donc là-dedans, eh bien, on va y mettre des exemples, des petits panneaux explicatifs qui présentent des exemples de ce que les laboratoires font en nanofluidique par exemple. Et donc, vous saurez que la nanofluidique, bah, c'est des nanosystèmes. Continuons notre petit chemin, et là, nous arrivons dans la prairie des nanomatériaux. D'ailleurs, vous avez ici des fullerènes, donc des différents systèmes, etc. Voilà. Et puis, donc, on va y mettre, évidemment, des objets. Encore une fois, c'est en construction. Voilà des petits plans d'orientation, d'ailleurs, pour savoir où on est après. Hein. C'est un peu flou. Et actuellement, on travaille avec trois écoles de design, donc l'ENSI, le Strat College Designer et l'école de design de Nantes, pour que des élèves, en fait, préparent des objets qui vont non seulement illustrer tel ou tel aspect des nouvelles technologies, mais aussi interroger. Interroger en disant, ouais, mais si on regardait les choses comme ça, qu'est-ce que ça nous pose comme question, de manière à ce que ça nous titille un petit peu. Allez, on continue la petite balade et on rentre dans la troisième partie, qui est la forêt de sapins, qui va être la nanoélectronique, parce que ici, il y en a plein de nanoélectroniques. Toutes les puces là-dedans, maintenant, sont gravées à une taille nanométrique et non plus micrométrique. Donc, vous oubliez la microélectronique. Nous en sommes à la nanoélectronique avec d'autres questions. Et voilà, c'est représenté, effectivement, sous forme d'une jolie forêt d'érable, évidemment, puisque nous sommes dans la couleur rouge. Mais cette nanoélectronique va nous amener à une autre partie, celle de l'informatique. Quittons la nano, sur laquelle on n'a pas encore beaucoup de choses, et allons voir l'électronique, où c'est évidemment couleur bleue, et nous avons choisi des magnifiques cascades. Alors j'ai pensé à des cascades qui existent en Croatie, le nom est absolument imprononçable, mais c'est magnifique, qui coulent dans tous les sens. Alors vous avez en bas le lac des technologies de base. Alors dedans, vous allez avoir le silicium, mais aussi l'optique, plein de choses comme ça, donc des petites îles. Et puis, chaque rivière représente un différent aspect, la mémoire, les capacités de traitement, les interfaces utilisateurs, les différents types d'interfaces utilisateurs, les aspects de virtuel et de réel, les aspects d'objets intelligents, de robots, etc., etc. Et voici le plan donc, sur lequel, en fait, est actuellement en train de travailler le gars pour rajouter quelques rivières, sur lequel, évidemment, bien sûr, vous aurez besoin d'un plan pour vous orienter, parce que là, je vous donne des commentaires, mais actuellement, juste avec les rivières, ce n'est pas encore très facile de faire les choses. On regarde un petit peu ça vu d'en haut, parce que ici, vous avez un lac, le lac des applications, évidemment, tout en haut de l'informatique. Eh bien, tout ça, ça converge pour faire des applications avec des îles qui représentent les grands types d'applications. Encore une fois, il s'agit de continuer à essayer de penser, y compris sans être un spécialiste technologique, mais un spécialiste de son domaine. Vous êtes tous de domaines différents. Nous avons tous des capacités, des choses comme ça, des soucis, des questions de mort, des façons d'aborder les choses différentes. Eh bien, essayons de les utiliser. Allez, on arrive un peu plus dans la partie blanche cette fois. Blanche comme les neurosciences et les sciences cognitives. Ce petit igloo ressemble un petit peu à un cerveau. Eh bien, c'est là-dedans qu'on va y mettre les neurosciences, d'ailleurs. Donc, on pourra s'y promener. Et là, eh bien, vous avez deux petites montagnes, les sciences cognitives. Alors les sciences cognitives, c'est intéressant parce que vous avez un petit coin qui sont plutôt en bas, plus proche effectivement de l'igloo, ça va être les sciences cognitives plutôt physicalistes. Et puis vous avez les sciences cognitives donc qui s'intéressent plutôt à simuler en fait le fonctionnement neuronal. Mais en haut, eh bien, vous avez la science cognitive fonctionnaliste, celle qui s'intéresse plutôt aux fonctions. Et puis de l'autre côté, un peu du côté de la mer, là où on va retrouver les sciences humaines, eh bien vous allez avoir les sciences cognitives situées, celles qui s'intéressent justement du lien entre la cognition, l'apprentissage et la société. Alors on va grimper en haut, parce que c'est normal, il faut quand même grimper là-dedans. Là, au passage, la petite montagne à côté, qui reproduit la même chose, mais un petit peu différemment, c'est l'hypothèse du cognitivisme, sur lequel certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord, et sur lequel eh bien, les débats pourront être cartographiés encore sur cette petite deuxième petite montagne. Alors, on va se tourner un tout petit peu, pour terminer notre petite balade dans l'île, pour aller voir l'autre partie, qui va être la partie verte, c'est la moins avancée actuellement, qui va avoir plusieurs plateaux, puisque en fait, quand on parle de biologie moléculaire, au niveau des molécules, ou alors les molécules, après, s'assemblent pour faire une cellule, biologie cellulaire. Les cellules fabriquent des organismes, et puis éventuellement, les organismes fabriquent un écosystème, un environnement. Et donc, on va avoir quatre plateaux par rapport à tout ce qu'on connaît en biologie et les différents débats qui s'y trouvent. Donc, voilà un peu comment on pourra se promener sur les parties bio. Voilà, donc, un petit exemple. On s'est posé la question de quelle carte. Pourquoi ? Parce que, en fait, eh bien, on essaye de voir maintenant comment on va pouvoir retrouver la même capacité de penser qu'on a ici. Bien évidemment, il ne s'agit surtout pas de gommer notre capacité à raisonner. Tant mieux, gardons-la. On raconte tellement de bêtises, ça serait quand même dommage qu'on ne s'amuse pas avec ça. Donc, continuons aussi à raisonner, et continuons donc à faire des cheminements de pensée le plus long possible, le mieux possible, si possible. Et en même temps, eh bien, continuons aussi à essayer de développer des cartes pour que, en plus de notre capacité de raisonner, nous soyons capables, premièrement, de débattre ensemble, de faire l'intelligence collective, de débattre, de travailler à plusieurs, de vivre à plusieurs. Deuxièmement, de gérer les conflits d'intérêts autrement que par le simple rapport de force. Et troisièmement, d'être créatif et innovant. Et si on arrivait à ça, ça serait bien finalement qu'on arrête d'être des demi-sages et des demi-hommes, parce que soit on choisit de devenir complètement sage, ce qui serait pas mal d'ailleurs aussi, soit finalement, bienvenue dans l'espèce humaine pour un retour aux sources après la Renaissance, et peut-être avec tous les moyens du XXIe siècle. Je vous remercie.